c'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Harwich, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 4 minutes past 9, Radio London time, the station with kicks on 266.
Le 1er novembre 1990, une version modifiée de la loi anti-radio offshore est adoptée au Parlement britannique. Elle permettra aux autorités, dès le début de l'année 1991, d'intervenir contre un bateau émetteur, même s'il se trouve hors des eaux territoriales. Le 4 novembre 1990, le Ross Revenge n'a presque plus de carburant et son équipage déjà réduit est épuisé. Caroline cesse ses émissions. Ce fait ne passe pas inaperçu et provoque même un certain émoi dans les médias. Mais alors que la mer du Nord est maintenant devenue silencieuse, la Méditerranée s'agite. À côté de l'historique Voice of Peace et d'Arutz Sheva, une troisième radio arrive au large des côtes israéliennes le 15 janvier 1991, le jour même du déclenchement de l'opération militaire contre l'Irak. En janvier 1991, le Panama confirma bien que le Ross Revenge avait été radié des registres maritimes du fait d'une loi de 1987 interdisant à tout navire battant pavillon panaméen de diffuser un programme radio depuis la haute mer. Si l'on ajoute à cela l'évolution de la loi anti-radio offshore, il est clair que la reprise d'émission depuis le Ross Revenge paraît hautement improbable. Depuis l'arrêt des programmes, il n'y a évidemment plus de ressources publicitaires ou sponsorisées. En février, un groupe de soutien connu sous le nom de RRSG, Ross Revenge Support Group, est créé pour réunir des fonds afin de restaurer le navire, de le doter d'un nouveau générateur et de soutenir matériellement les quelques personnes qui sont à bord. Le Ross Revenge Support Group a aussi pour but d'entretenir la mémoire de la radio historique et de réfléchir aux possibilités de reprendre légalement les émissions. Parallèlement à cette initiative, la direction de Caroline releva ce qui semblait être une faille dans la nouvelle loi anti-radio offshore. Il était apparemment toujours possible d'émettre depuis les eaux internationales si la radio et le navire étaient reconnus comme légaux par un pays. Jusqu'à présent, les fondateurs de Radio Offshore cherchaient juste à obtenir un pavillon de la part d'un pays ne souscrivant pas aux conventions internationales d'attribution des fréquences radio. Jamais une organisation n'avait cherché à faire reconnaître son média par un pays. Si l'organisation Caroline parvenait à faire immatriculer le Ross Revenge et à faire reconnaître la radio par un seul et même pays, des émissions pourraient peut-être reprendre. L'organisation Caroline commença donc à démarcher des pays susceptibles d'accueillir un tel projet. Le Liberia sembla intéressé, mais son gouvernement réclama apparemment 100 000 livres par an ainsi que de solides garanties de rentabilité pour reconnaître la radio. Pour garantir les approvisionnements du Ross Revenge, l'avocat de la radio dut rédiger un courrier à l'intention du ministère du Commerce et de l'Industrie britannique, certifiant qu'aucune émission ne reprendrait depuis le Ross Revenge. Au Proche-Orient, Abinathan entama un nouveau jeûne le 27 avril 1991 afin de protester contre la loi interdisant à tout citoyen israélien de rencontrer un membre de l'Organisation de libération de la Palestine. Toutes les heures, la Voix de la paix annonçait le nombre de jours jeûnés par son emblématique dirigeant et il prenait la parole deux fois par jour pour livrer ses sentiments. Mais le 14 mai, il fut hospitalisé pour des problèmes cardiaques. Le lendemain, la célébration du 18e anniversaire de la Voix de la paix fut annulée. Le 17 juin, à la demande du président israélien, Abinathan mit fin à son jeûne après 40 jours. Le 29 juin, il se rendit à Tunis pour rencontrer à nouveau Yasser Arafat.
This afternoon, after the news of mine, we have a very important message to the listeners of the Voice of Peace. Hope to see you there.
Dans l'Israël,
Au mois de juin 1991, une rencontre fut organisée entre des responsables du ministère du Commerce et de l'Industrie britannique, des membres de l'autorité de la radiodiffusion et des responsables de Radio Caroline. Il leur fut confirmé que Radio Caroline pouvait tout à fait demander une licence d'émission et à partir de là, émettre depuis n'importe quel endroit, y compris depuis le Ross Revenge. La seule condition étant que la demande devait être faite par une personne n'ayant pas été condamnée dans le cadre du Marine Broadcasting Offence Act au cours des 5 dernières années. Nous avons déjà parlé des liens qui ont existé entre Alan Weiner, fondateur de Radio New York International, et Caroline. Avant de lancer sa station, Weiner a fait un séjour sur le Ross Revenge, où il a notamment contribué à la construction d'un émetteur en ondes courtes. Après l'arrêt des émissions de Radio New York International, et en attendant de trouver une solution pour contourner la Federal Commission of Communication, Weiner passa plusieurs accords avec des radios pour diffuser des émissions produites par Radio New York International. En juillet 91, il fit profiter Caroline de ses canaux de diffusion, et plusieurs émissions retraçant l'histoire de la célèbre radio britannique furent diffusées sur des stations dont Worldwide Christian Radio.
Tony Blackburn, Dave Cash, Ed Stewart, Kenny Everett, John Peel were all making plans to go and launch Radio 1, which seemed to me, although it might be sensible from a career point of view, seemed to me to just turn their back on what Pirate Radio was trying to achieve. And when Ronan said that somehow, some way, we will keep Radio Caroline on the air, I just thought, well, I'm going to be a part of that effort. Because Caroline had something that none of the other stations had. There was a certain element to it that touched people in a way that I don't think the other radio stations did. And so we were like family to the listeners.
Les mois passent et le Ross Revenge est toujours ancré au même endroit en attendant qu'une décision soit prise pour l'avenir de Radio Caroline. À partir du 19 novembre 1991, les conditions météo se dégradent en mer du Nord. La mer est très agitée et le vent est de force 10. Dans la nuit du 20, les gardes-côtes de Douvres localisent un navire qui dérive vers le sud et qu'ils n'arrivent pas à identifier. Des appels lancés sur le canal d'urgence restent sans réponse. Un hélicoptère est envoyé sur zone et identifie le Ross Revenge. Mais le bateau ne répond toujours pas aux sollicitations. Plus tard, les quelques personnes à bord du navire sont réveillées par un choc. Le Ross Revenge vient de s'échouer sur un banc de sable. L'équipage lance alors un appel de détresse et est informé par les gardes-côtes que le bateau a dérivé de 24 km et s'est échoué sur le banc de sable de Goodwin, connu pour avoir envoyé de nombreux navires par le fond. On dépêcha un hélicoptère, mais l'équipage refusa d'évacuer. Vers 5 heures du matin, un remorqueur et le canot de sauvetage de Ramsgate arrivèrent en vue du Ross Revenge. Mais l'équipage, qui inspecta le navire, jugea qu'il était possible de rester. Il n'avait constaté qu'un seul dommage, une petite quantité d'eau qui s'était infiltrée par un hublot cassé. Mais une heure plus tard, le bateau se mit à pencher fortement sur tribord. L'équipage dut admettre qu'il était impossible de rester à bord et appela via les canaux d'urgence. Le canot de sauvetage de Ramsgate revint, mais s'échoua à son tour sur le banc de sable. Il fallut envoyer le canot de Douvres pour venir en aide aux deux équipages maintenant prisonniers du banc de Goodwin. Un pétrolier sur zone se déporta également pour intervenir. Un peu avant 7 heures, l'équipage fut élitreillé. Du fait d'un risque important de chavirage du Ross Revenge, le remorqueur Dextrous resta près du navire radio. Mais à la surprise générale, le Ross Revenge ne chavira pas. L'équipage du Dextrous décida de prendre en charge le Ross Revenge, mais éprouva les plus grandes difficultés à l'amarrer. Et le libérer du banc de sable fut aussi très compliqué. Ce n'est que le 22 novembre à marée basse que le bateau fut remis à flot. Il est l'un des rares navires à être ressorti intact du piège de Goodwin. C'est en fin d'après-midi qu'il arriva dans le port de Douvres et fut immédiatement inspecté par les autorités maritimes qui le déclarèrent inapte à la navigation. Une longue liste de réparations fut établie et il est bien évident que dès lors que le navire était passé sous le contrôle des autorités britanniques, elles n'allaient pas le laisser repartir facilement, étant donné son passé. À ce stade, on a bien l'impression que l'aventure de Radio Caroline touche à sa fin. L'équipe fut autorisée à réinvestir le Ross Revenge toujours à quai. Et c'est depuis le bateau que quelques émissions furent produites pour être diffusées d'abord sur une station de radio néerlandaise relayée par satellite, puis sur une station locale de Calais, Radio 6. Pour l'équipe de Caroline, il s'agissait bien sûr de continuer à faire vivre la légende. Mais à ce stade, il n'y avait aucune perspective pour que la radio ne reprenne ses émissions de façon autonome. Demander une licence terrestre ne semblait pas motiver l'organisation. Caroline avait toujours été en mer. Faire de la radio légalement, depuis un studio à terre, n'avait plus le même attrait. Aux États-Unis, le SARA, jadis utilisé par Radio New York International, est toujours à quai. Et des rumeurs circulent concernant son avenir. Le navire aurait été racheté par un consortium dans lequel John England serait impliqué. Au milieu des années 80, cet homme avait été à la tête d'un projet visant à relancer l'historique Wonderful Radio London. Là, il s'agirait de démarrer Radio Tiananmen à destination du public chinois. Plus tard, on parla d'utiliser le nom de Radio Caroline et de rester en Amérique du Nord. Mais aucun de ces deux projets ne se concrétisera.
Est-ce behoefte aan het niet?
The Times, mercredi 8 avril 1992. Retour à l'antenne. Radio Caroline, l'ancienne station pirate, a repris légalement ses émissions hier après avoir obtenu une licence de radio communautaire de 4 semaines. La station, située à bord du Ross Revenge, amarrée dans le port de Douvres, a commencé à émettre à minuit. Ses programmes sont audibles à Douvres et dans les environs. La station pirate a fonctionné pendant 27 ans avant d'être réduite au silence en avril de l'année précédente par la loi de 1990 sur la radiodiffusion. Les responsables de la radio historique se rendent bien compte que malgré la solidarité de nombreuses radios de par le monde qui sont prêtes à accueillir les programmes de Caroline, cette solution ne peut être que transitoire. Le problème est que l'équipe reste désorientée et indécise sur la suite à donner à l'aventure Caroline. Alors la station va demander une première licence temporaire d'émission. Appelée Restricted License Service, cette autorisation va permettre à Caroline de diffuser des programmes depuis le Ross Revenge. Certes, la zone d'émission est restreinte, mais permet de faire revivre la radio et son navire. Du fait d'un paysage radiophonique peut-être un peu plus diversifié que dans certains autres pays européens et de la présence de quelques radios privées, la France n'a jamais connu de tentative de lancer une radio depuis la mer. Mais notre pays va par deux fois être le point de départ de projets de radio maritime à but politique. Nous avons déjà évoqué The Goddess of Democracy en 1990. En août 1992, l'association Droit de Parole est fondée à Paris. À son origine, on trouve plusieurs journalistes ayant travaillé pour l'ancien service public de radio et télédiffusion de l'ex-Yougoslavie, ainsi que pour des médias privés. L'ex-Yougoslavie est déchirée par une guerre civile et ces journalistes qui ne peuvent plus exercer leur métier sur place estiment qu'il est vital de rétablir, même à distance, une information objective. Ils pensent alors à une station de radio et dans ce but, ils prennent contact avec différentes organisations humanitaires basées en France, mais aussi avec des personnes qui furent impliquées dans le projet DS de la démocratie. L'association pense d'abord à un émetteur terrestre qui pourrait être basé en Hongrie et de cet endroit pourrait couvrir tout le territoire de l'ex-Yougoslavie. Un émetteur terrestre n'étant pas à l'abri d'un sabotage, ils optent finalement pour une radio offshore. On pensa immédiatement à utiliser le Ross Revenge, mais les autorités britanniques refusèrent de lever l'ordonnance d'immobilisation car rien n'avait été entrepris pour sa remise en état. Les responsables du projet acquirent alors un autre navire qu'ils baptisèrent Droit de Parole, du nom de l'association. Constitué de journalistes qui ont une solide expérience et bénéficiant de conseils de personnes ayant participé aux radios offshore, le projet est soutenu par l'UNESCO, la communauté européenne et plusieurs grands journaux comme le Washington Post ou le New York Times. Les programmes de Radio Broad débutèrent le 1er juin 1993. La station émet en serbe, bosniaque, croate, anglais et français. À côté de l'information, deux émissions vont rencontrer un grand succès. L'une informe les réfugiés sur leurs droits et les démarches qu'ils doivent entreprendre dans les pays d'accueil. L'autre programme tente de retrouver des personnes disparues à la demande de proches. Après des problèmes d'immatriculation de son navire, la radio put émettre régulièrement, mais la diminution du financement contraignit Radio Broad à cesser ses émissions le 28 février 1994. Elle revint brièvement sur les ondes à partir du 7 mars, mais ferma à nouveau, cette fois définitivement. En Israël, l'existence de la Voix de la Paix est de plus en plus difficile. Dès le mois de septembre 1992, l'audience de la radio baissa encore suite à un énième changement de format et à la concurrence d'Arut Sheva, plus professionnelle. Sur le Peace Ship, les installations étaient vieillissantes et l'un des deux studios était carrément en panne. Au début de l'année 1993, Abinathan entra en négociation avec un groupe de presse pour le rachat de la Voix de la Paix. Mais la transaction ne se fit pas. En mars, le Peace Ship fut temporairement immobilisé par les autorités lors d'une escale car son pavillon panaméen avait expiré. Au début de l'été, le gouvernement israélien laissa entendre que des licences pourraient être attribuées à Arut Sheva et à la Voix de la Paix. Mais en raison d'une forte opposition de Kol Israël, le projet fut abandonné. Fin juin 1993, l'émetteur FM tomba en panne. Il ne restait plus que la diffusion en ondes moyennes. Le 7 juillet, l'émetteur en ondes moyennes tomba en panne à son tour et même si des réparations de fortune permirent à la radio de revenir deux jours plus tard, le plus gros annonceur décida de rompre son contrat avec la Voix de la Paix. Début septembre 1993, Abinathan annonça à son équipe que la radio cesserait d'émettre le 1er octobre. Par le passé, il avait plusieurs fois annoncé sa fermeture, mais cette fois, cela semblait sérieux. Dans une interview donnée à un journal israélien le 27 septembre, Abinathan expliqua que la fermeture de la Voix de la Paix était due aux dettes accumulées qui représentaient plus de 250 000 dollars. Mais surtout, il évoqua l'accord de paix historique signé le 13 septembre 1993 entre le premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le leader de l'OLP Yasser Arafat. Abinathan expliquant que la mission pour la paix qu'il s'était fixée avec la radio était accomplie. Le 1er octobre à 9h, il démarra la dernière émission, au cours de laquelle il revint sur l'histoire de la station, ses difficultés, ses soutiens, mais aussi l'hostilité de certaines composantes de la société israélienne.
You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. We've been doing this since, May 1973, even though we purchased the ship in 1969. So I've been involved with the ship for more than 22 years.
Abinathan annonça vouloir couler le Peace Ship après la fin des émissions. Mais l'intervention du maire de Tel Aviv le fit changer d'avis. Shlomo Lahat s'engagea à trouver un emplacement pour le navire et à en faire un musée de la paix. Le dernier disque diffusé fut « We Shall Overcome », le même disque que Radio Caroline diffusa le 15 août 1967 à 0 heure à l'entrée en vigueur du Marine Broadcasting Offense Act. Mais le Peace Ship ne fut jamais transformé en musée de la paix. Une alternance à la mairie de Tel Aviv et des manœuvres politiques en décidèrent autrement. Abinathan en revint alors à sa première idée. Le 28 novembre 1993, le navire fut remorqué dans les eaux internationales et des trous furent percés dans sa coque. Étonnamment, il mit près de 7 heures à couler après avoir dérivé sur 4000 nautiques, à un endroit où la faible profondeur de la mer était peu propice à accueillir une épave. Dans la seconde moitié des années 90, Israël va voir apparaître plusieurs émetteurs marins ou décrits comme tels. Les atermoiements des différents gouvernements de ce pays sur l'attribution de fréquences radio à des opérateurs privés vont favoriser l'émergence de plusieurs radios pirates. D'abord basées à terre, certaines utiliseront des bateaux pour échapper aux saisies. D'autres feront croire qu'elles émettent depuis la mer pour tromper la vigilance des autorités. Si le phénomène dura plusieurs années, aucune de ces radios ne dura et ne s'imposa, et il est difficile de retracer leur histoire de façon fiable. Radio Off, Radio Gal, Radio Dan, Galei Yamatichon ou Arutz 2000 sont quelques-unes des stations que l'on a pu recenser. Le Daily Mail, mercredi 16 juillet 1997. La première dame des pirates. Quelle joie d'apprendre que Radio Caroline sera de retour pendant 3 semaines en août. Lorsque Caroline a commencé à émettre dans les années 60, mon petit ami Carl Conway était l'un des DJ et j'ai reçu un appel paniqué de sa part car ils avaient décroché leur première publicité. Mais il fallait une voix féminine et il n'y avait que des hommes à bord. J'ai donc enregistré la première publicité de Caroline qui, si je me souviens bien, était pour les couvertures électriques nordiques. Et je suis devenu la première voix féminine à être diffusée sur les ondes maritimes. Je suis toujours à la disposition de Caroline si la station, qui a repris ses activités, souhaite une nouvelle prestation. Jenny Greiner, depuis Hove, East Sussex. Caroline obtiendra régulièrement des licences temporaires d'émission, comme par exemple en août 1999.
The Hooters, God bless every little one of them. What a gorgeous song, what glorious sentiments. I echo them completely. This is Radio Caroline on a warm day with a chance of some thunderstorms. Hot and sunny, 30 degrees. The winds are easterly and light. The Ross Revenge is delightful today. Do come down and see us. We're at the end of Southend Pier. We will welcome you with open arms.
Beaucoup de personnages nous ont accompagnés pendant cette histoire. Des DJ, bien sûr. Johnny Walker, Robbie Dale, Simon Dee, Andy Archer, Roger Day, Samantha Dubois, Tony Blackburn, Kenny Everett, Empereur Roscoe, Ketch Q, Charlie Wolf, Caroline Martin, Liz West et bien d'autres. Des dirigeants de radio comme Philip Birch ou l'excentrique Lord Such, mais aussi et bien sûr Abby Nathan et Ronan O'Reilly. Certains nous ont quittés. Abby Nathan est mort le 27 août 2008 à 91 ans à Tel Aviv. Il aura malheureusement vu s'effondrer tous les espoirs de paix entre juifs et palestiniens. Ronan O'Reilly est décédé le 20 avril 2020 à 79 ans dans une maison de retraite à Carlingford dans le comté de Louth en Irlande, tout près du port de Greynor où le premier bateau de Radio Caroline fut aménagé en navire radio. C'était au début de l'année 1964. Dans son voisinage se trouvait aussi le bateau de Radio Atlanta, qui deviendra par la suite le second bateau de Radio Caroline et qui accueillera d'autres radios offshore, le célèbre Miami Go.
Surname?
O'Reilly.
Christian name?
Ronan.
Age?
27.
Nationality?
Irish.
Religion?
Roman Catholic.
Occupation?
Marine broadcaster.
Political views?
I suppose I'm an anarchist.
C'était les DJ de la haute mer, dernier épisode, When Pirates Ruled the Airwaves.
Ronan O'Reilly, founder of Radio Caroline, has for nearly 4 years supported some, though not all, of the free-for-all tactics used. Must tell you, darling, must tell you, but first of all, let's wake you up.